Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
À Versailles, au château et aux rois qui ont fait la France. Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver pour une émission encore très spéciale de Bienvenue chez le roi. Bienvenue chez le roi, les châteaux des rois de France, les églises, les abbatiales. Je reçois aujourd'hui dans nos studios Laurence Martin, la maîtresse de l'abbatiale.
Bonjour Marie-France.
On peut dire comme ça. Bonjour Laurence.
La mère abbesse.
La mère abbesse. Oh, tu as tout une mère abbesse, en effet. Et aussi, Laurence n'est pas venue seule, elle est venue nous présenter un festival de musique qui a lieu le vendredi 12 mai, samedi 13 mai et dimanche 14 mai, festival de musique de Dreux.
Oui, on commence par Dreux, le vendredi soir à 20h30.
Et donc, Laurence est venue avec Jean-Christophe Grégoire, qui est chef de chœur et baryton. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Et Marie Amiel, je pensais que c'était ton prénom, mais non. Je suis très déçue, c'est un prénom, c'est un nom magnifique.
Merci.
Mais la directrice d'antenne de Radio Grand Ciel s'appelle Émilie Glory, c'est pas mal non plus. Et donc, Marie, tu es chanteuse lyrique mezzo-soprane.
Exactement.
Quelle tonalité merveilleuse. Alors, les voix de l'abbatiale à Dreux. C'est une rencontre entre des lieux d'exception, comme l'abbatiale de Laurence Martin, et la voix lyrique, la tienne, Marie, et celle de Jean-Christophe. Vous avez dans
Entre autres, quelques autres compagnons qui sont avec nous.
Nombreux.
Nombreux. Et dans le spectacle, dans les trois spectacles
dans les
d'ailleurs.
Trois spectacles. Hein? Mais surtout l'ensemble vocal, où on est quand même...
Oui. Dans Casta Diva, vous êtes combien ?
Dans Divine Calas, on est 5.
5 chanteurs.
Cinq chanteurs. Et au Funback, on va être 4 chanteurs et un
pianiste et un comédien.
Voilà.
Et dans l'ensemble vocal Les Sources, nous serons une quinzaine.
Eh bien, dites-moi, c'est quelque chose de remarqué pour Calas. Il faut au moins bien 5 chanteurs pour remplacer Calas. Encore que vous, toute seule, c'est bien aussi.
Oui, ben là, on sera 3 chanteuses pour remplacer Calas. Hein. Il faut au moins 3.
Ah oui, mais j'ai plaisanté.
Il y a une comédienne qui va interpréter le rôle de Calas, mais vraiment en tant que comédienne.
Donc, sans chanter.
Sans chanter. On va retracer un petit peu sa vie, ses mémoires. Avec un comédien qui est Jean-Marc Biscup, qui est également le metteur en scène et qui a écrit le spectacle. Et donc, eux, ils vont faire uniquement du théâtre. Et ensuite, il va y avoir des interventions de 3 chanteuses. Voilà.
Dont vous.
Dont moi.
Dont vous, Marie.
Oui.
Et est-ce que, dans ce cas-là, vous choisissez les airs que vous voulez interpréter ou bien c'est au petit bonheur la chance, forcément?
Oui, c'est une discussion avec le metteur en scène, enfin avec Jean-Marc, voilà, qui connaît nos catégories de voix, qui connaît notre répertoire et il y a une discussion avec lui, généralement. Mais c'est plutôt lui, au départ, qui nous propose.
Oui, il sait comment vous posez votre voix, donc effectivement, c'est beaucoup plus facile pour lui de...
Oui, et on se connaît bien.
De l'extérieur, de voir ça. Alors ça concerne le premier concert du vendredi 12 mai en l'église Saint-Pierre de Dreux. À quelle heure, Laurence ?
Ce sera à 20h30.
20h30. Et donc, ce spectacle s'appelle Divine Calas. C'est un spectacle à théâtre musical écrit par Jean-Marc Biscup, d'ailleurs, mais il est actuellement à Marrakech. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas dans nos studios aujourd'hui.
Oui.
Et c'est dans le cadre de la commémoration internationale du centenaire de Maria Callas. Elle aurait eu 100 ans cette année. Personne ne l'a oublié, naturellement, c'est resté une icône et maintenant c'est presque une divinité. Encore que, elle a commencé à chanter à quel moment? Elle avait 20 ans
Elle était assez jeune.
À 16 ans,
il me semble de mémoire qu'à 16 ans, elle a commencé à chanter à 16 ans.
Ouais. Mais Jean-Christophe, vous qui êtes chef de chœur, est-ce que mon impression est juste? J'avais l'impression qu'il y avait une autre manière de s'exprimer dans le chant à cette époque-là. Donc ça fait 80 ans, pratiquement. Est-ce qu'il y a des tonalités que l'on donne au chant qui sont particulières à une époque? Est-ce que maintenant, c'est une mode plus je ne sais pas, mélodramatique ou... Est-ce qu'il y a des nuances ?
Tout à fait. Il y a des modes. Et puis, la voix, la conception de la voix évolue. Celle qui existe à l'époque baroque, je dirais, et qui utilisait une voix qui était naturelle, et qui utilisait l'ambitu naturel humain, c'est-à-dire en gros du do au fa, a évolué. On est arrivé à la période classique, et pré-classique et classique, où là, les chanteurs devenaient de plus en plus des gens qui travaillaient leur voix, et donc étaient capables de chanter avec un peu plus d'ambitu, ce qui fait que la gestion de la voix au cours des époques a évolué. De plus en plus de chanteurs professionnels. Et puis, il y a eu une époque en Italie où il y avait ces fameux castrats, qui étaient des écoles de chant très particulières. Mais petit à petit, la voix a évolué, et même au XXe siècle. Car quand on écoute les disques de Caruso, ou de tous nos grands, magnifiques
c'est
chanteurs...
C'est fantastique d'avoir encore leur voix.
C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et il y a même des enregistrements qui datent d'avant 1900. Et c'est fabuleux d'écouter ça.
Mais
pour
gravé
nous,
dans la cire, c'est...
Oui, c'était des rouleaux de cire. C'était gravé dans la cire. Ces gens chantaient à pleine voix dans un pavillon. Comme ça. Imaginez-vous Caruso avec sa immense voix qui est en train de chanter un immense Puccini dans un pavillon.
Un petit peu le même pavillon que le petit chien de la voix de son maître.
Exactement, ben exactement. Et je peux, si vous avez l'occasion, écoutez ces rouleaux de cire. C'est fantastique. J'ai entendu un baryton français qui était magnifique à l'époque de Verdi, qui a fait tout, qui a créé ces et qui a sur la fin enregistré quelques-uns de ces rouleaux de cire. Et quelqu'un qui les possédait m'a fait écouter. C'est fabuleux. Vous avez l'impression que la personne est dans la salle, qu'elle est à côté de vous.
C'est dommage qu'on ait abandonné ça pour enregistrer.
Je sais pas. Enfin, non, voilà. En tout cas, la voix a évolué et petit
à petit. Et puis le goût du public également.
Le goût du public, oui. Exactement. Et puis aujourd'hui, il est certain que Callas, à l'époque où chantait Callas et où chantaient ces merveilleux chanteurs qui étaient Mario Del Monaco, etc., et tous ces immenses chanteurs français qu'on peut être Robert Massard, et toute cette époque, il y a un style. Comme il y en avait un en 1930, et puis il y avait un style, et puis aujourd'hui il y en a un qui est un peu différent, que les enregistrements, etc., ont un peu conduit à modifier un peu la façon de chanter, et puis d'avoir certaines exigences qui n'étaient pas celles de l'époque, car à l'époque il n'y avait pas la télé, et souvent, hein, je pense à l'époque après Caruso, donc la théâtralité, l'exubérance vocale, la présence scénique était tellement importante pour les gens qui venaient et qui c'était leur source de distraction.
Il y a une ambiance dans les salles de spectacle tout à fait étonnante. J'ai eu beaucoup de chance d'aller à l'Opéra de Marseille. Alors là, en plus, à Marseille, c'est une ville très particulière pour ce qui concerne l'art. Les gens sont cruels parfois. C'est vraiment... C'est très, très difficile.
Mais vous savez, même dans le Nord... Parce que dans le Nord, moi, il m'a été donné de chanter beaucoup au théâtre de Calais, qui est un petit théâtre, ou à Boulogne-sur-Mer, etc. Mais les gens connaissent tout par cœur. Vous attendent en coulisses et disent « Ah oui ah, !» Et puis, ils vous chantonnent ce que vous allez chanter un peu plus tard. Donc, il y a vraiment, dans le Nord, une grande tradition lyrique également, comme dans le Sud.
Ce que j'ai vu extraordinaire, c'est un bis. Dans Turandot, il y a un grand air, bien sûr, que les spectateurs connaissaient très bien, visiblement. Et quand le ténor a eu fini de le chanter, tout le monde s'est levé, a crié « bis ouais. !» Et il a recommencé. Mais ça, c'est quand même fantastique.
Ah ben c'est... Mais ça dénote de l'ambiance et de comment du plaisir que les gens ont à écouter certaines choses qu'ils connaissent.
Inouï, mais oui, naturellement, c'est certain. Est-ce que vous avez constaté aussi, par exemple dans la Callas, puisqu'elle nous occupe pour ce concert du vendredi 12 mai, un changement dans la tonalité de sa voix, parce qu'elle a changé aussi d'aspect physique. C'était drastique. Elle a maigri de je ne sais pas combien de kilos et elle a continué à chanter en étant très svelte et très... Est-ce que la corpulence, parce que Renata Tebaldi était très, très grosse aussi, Non, Tebaldi, donc c'est contrairement à la Callas qui, elle, a fait le chemin inverse, en fait. Et est-ce que ça a altéré sa voix, comme d'aucuns le disent?
Je ne sais pas. Le mystère des voix,
c'est
des personnalités,
extraordinaire.
De ces chanteuses hors normes, dépasse.
Un don. Point final.
On pourrait poser la question à Jean-Marc.
Oui.
Qui lui
on peut l'appeler,
est intarissable sur le sujet. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Laurence.
Voilà, alors je ne suis pas toute seule. Je suis avec.
Bonjour Jean-Marc. Je suis Marie-France Guimard-Roche et je reçois vos amis. Et nous avons eu l'idée, enfin Laurence a eu l'idée de vous appeler puisque vous êtes très loin de chez nous. Vous êtes au Maroc, non?
Je suis au Maroc, oui.
Il fait beau.
Il fait très beau, il fait très chaud.
Comme ici.
Et j'y suis pour la bonne cause parce que je suis en train d'essayer d'y organiser une tournée de notre spectacle Divine Callas que nous allons présenter à Dreux. Vous voyez, il y a un lien à tout.
Et vous êtes comédien. Quel rôle avez-vous dans ce spectacle? Le mari de Maria Callas?
Oh, le mari de Maria Callas, j'aurais bien aimé, ça m'aurait permis de l'approcher de près. Non, je joue un personnage fictif qui s'appelle Jean, qui est journaliste et écrivain, et qui est tombé amoureux, mais cette fois pour le platoniquement, je dirais, il est tombé amoureux de l'artiste et il n'a de cesse d'approcher Maria Callas dans l'espoir de pouvoir écrire ses mémoires.
Eh bien, c'est un vaste programme, en effet. Et donc, vous êtes, oui. vous la serrez de près, donc, cette Maria Callas.
Oui, parce que dans cette histoire, je vais donc arriver à mes fins, je vais arriver à l'approcher avec la complicité de sa femme de chambre qui s'appelait Bruna, qui a vraiment existé, hein, ça c'est un personnage qui a vraiment existé. Je vais arriver à l'approcher et puis nous allons passer à un après-midi ensemble à parler de sa carrière et à parler surtout de sa façon d'aborder les rôles, de son statut d'artiste et puis un petit peu de la femme aussi, parce que la femme, Maria, la vraie, était un petit peu secrète. On a connu ses frasques, sa liaison avec Onassis, mais tout le reste, elle se livrait très peu et c'était une femme qui était très sensible et même en souffrance, j'oserais dire.
Mais je vous entends parler de Callas et je me dis qu'en fait, vous en êtes amoureux, non?
Ah, écoutez, c'est... Alors, je vais vous dire, je pense que vous êtes entouré de certains de mes interprètes. Alors,
brillant,
je
brillant.
Suis amoureux de... Je suis amoureux de mes interprètes parce que j'aime les gens que je mets en scène, parce que bon, ça c'est l'autre côté de mon travail, c'est aussi de mettre en scène. Alors déjà, je suis amoureux des gens que je mets en scène et je pense que c'est comme ça qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui les aime et qui essaie de les mettre en lumière. Voilà, alors ça c'est une chose. Et puis bon, moi j'ai découvert l'opéra à l'âge de 5 ans, donc c'était au siècle dernier. Évidemment, Maria Callas, qui a beaucoup enregistré, tout de suite, je suis tombé sur des enregistrements de Maria Callas et j'ai été, électrisé. Donc, c'est un coup de foudre qui date depuis mon enfance. Donc, il y a plus d'un demi-siècle que je suis amoureux de Maria Callas.
Ben, c'est merveilleux. Voilà, écoutez, au moins, on peut dire que ça n'est pas un coup de foudre assassin, c'est déjà ça. On est content de vous avoir parmi nous pour faire cette mise en scène qui va être superbe, je n'en doute pas. Donc, en l'église Saint-Pierre de Dreux, et je serai là, je vais aller vous rencontrer, Jean-Marc. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé d'aussi loin. C'est une très bonne idée, Laurence.
Vous êtes ravie. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Merci beaucoup.
Mais écoutez et enregistrez. Nos auditeurs de Radio Grand Ciel vont pouvoir profiter de votre voix, en tout cas. À bientôt.
Alors,
à vendredi.
Salue les auditeurs de Radio Grand Ciel et je vous salue tous et tous ceux qui sont présents dans le studio aussi. Voilà. Vive l'opéra.
Tiens, de vous écouter pour les spectacles. À bientôt.
À très vite.
Merci, au revoir.
Merci de m'avoir appelé. Au revoir, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et donc, nous allons continuer notre promenade dans ce festival des voix exceptionnelles, des voix lyriques. Et le samedi 13 mai, dans le cœur de l'abbatiale du Breuil-Benoît, que j'ai visitée, qui est merveilleuse. Et curieusement, Laurence, peu de gens la connaissent.
Oui, ça reste encore un lieu presque secret.
Combien de kilomètres de Dreux ?
On est à 12 kilomètres.
Oh, de Verst, c'est bon.
Donc voilà, 10 minutes en voiture. Et on aura nos affiches, nos affichages pour vous accueillir. Mais c'est vrai que ça reste un endroit un petit peu à part. On est dans la vallée de l'Eure. Et comme de nombreuses abbayes cisterciennes, elles avaient chacune un emplacement bien particulier. Donc on vous laisse découvrir ce lieu qui va être magnifié par la voix de nos chanteurs.
Vous arrivez par un long chemin et vous vous garez à droite dans le pré.
Tout à fait, qui sera préparé... Et donc, pour le public.
L'ensemble vocal Les Sources qui va se produire ce soir-là est dirigé par Jean-Christophe Grégoire. C'est de la musique romantique, répertoire de musique vocale, profane et sacrée de Saint-Saëns à Fauré. Jean-Christophe, ça comprend combien de musiciens ? Combien de compositeurs ?
Il y en a une quinzaine. Il y a une quinzaine de compositeurs. C'est-à-dire que ce concert... Je l'ai imaginé parce qu'une fois je suis tombé à la Bibliothèque nationale sur des œuvres inédites parfois également des compositeurs eux-mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Car ces pièces étaient extraites du concours des chœurs d'essai. C'est-à-dire que les compositeurs de cette époque, c'est-à-dire on va dire la fin du 19e siècle, étaient intéressés pour jeunes talent, et ils étaient intéressés pour pouvoir participer au prix de Rome. Et donc, ils devaient fournir...
Le prix de Rome, ça marchait aussi pour le chant ?
Tout à fait. Il y avait dans toutes les disciplines, mais particulièrement pour le chant, et c'était une chose très importante et très convoitée, parce que ces compositeurs étaient aussi des sources de propagande à ce moment-là. Les compositeurs de cette époque souhaitaient participer à ce concours. Parce que les jeunes compositeurs, évidemment, n'avaient pas de ressources, il n'y avait pas l'intermittence, il n'y avait rien. La seule façon pour eux de survivre, c'était de pouvoir trouver du travail. Et donc, une des portes était le prix de Rome. Pour pouvoir concourir à ce prix de Rome, qui leur permettrait de passer 2 années, quand même, tout frais payés, hein, juste pour la composition. Donc, ça les intéressait beaucoup. Et donc, pour pouvoir participer à ce prix de Rome et concourir, ils devaient fournir un chœur d'essai qui était examiné à la table. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de censeurs musicaux de l'époque, c'est les Saint-Saëns, Théodore Dubois, Ambroise Thomas, mais aussi Saint-Saëns, qui étaient autour d'une table et qui devaient juger si la personne qui venait pouvait concourir au prix de Rome. Et il les jugeait donc sur ces petits chœurs d'essai qu'on appelait, qui étaient écrits pour le chœur et l'orchestre, avec quelques pages solistes. Mais ces œuvres duraient 4 minutes, en gros, et étaient composées sur un texte qui leur était imposé donc par le jury. Souvent, des poèmes de Victor Hugo, de Théophile Gautier, de Lamartine. Et donc, les concurrents, dans un temps donné, en espace clos, devaient fournir et
ça devait
construire...
Être stressant comme heure.
Ah oui, c'était assez stressant. Et donc, ils devaient fournir ce manuscrit qu'ils donnaient donc au jury, qu'ils l'examinaient à la table. C'est-à-dire que ces œuvres n'étaient pas jouées. Elles étaient lues par ces grands musiciens de l'époque. Au terme de cet examen, ils étaient invités à concourir au prix de Rome. C'est-à-dire que oui, ils pourraient concourir. Ça ne veut pas dire qu'ils le gagnaient. Ça veut dire qu'ils étaient autorisés à y participer. Tout ça, pour
alors,
vous
donc,
dire...
Alors donc, tous les morceaux, bien sûr, n'étaient pas édités.
Oui. Tous ces morceaux n'étaient pas édités. J'ai été à la Bibliothèque nationale, j'en ai trouvé un certain nombre.
Il y en a un sur lequel vous avez flashé, si on peut dire. Est-ce que vous vous êtes dit, ça, il faut absolument que je le mette dans mon spectacle?
Ils sont tous magnifiques.
Ah, alors ça va être compliqué.
Ils sont tous magnifiques parce que je vais vous parler des compositeurs rapidement,
oui.
Mais pour vous donner une idée de ce spectacle et l'intérêt que j'y ai trouvé, c'est que on a le jeune Debussy, le jeune Ravel, le jeune Saint-Saëns, la jeune Lili Boulanger, le jeune Paul Dukas, le jeune Max Dolon, le jeune André Caplet. Et tous ces gens, tous ces compositeurs, à l'aube de leur carrière immense, étaient là et devaient se confronter à ce jury. Ils ont dû adopter ce qui se faisait à ce moment-là, qui était le goût du moment, et le goût du jury surtout, c'est-à-dire une musique romantique assez classique. C'est-à-dire, on est très loin des œuvres de Caplet par la suite et très loin des œuvres de Ravel de la suite. Mais ils se sont conformés à ce côté romantique qui fait que ces pièces sont, ils ont essayé d'être les meilleurs du monde. Donc, ils les ont vraiment soignés dans la prosodie.
Ça doit être
dans
plein de charme.
C'est plein de charme. Ces pièces sont courtes. Et d'entendre ce qu'a écrit le jeune Debussy, c'est tout à fait étonnant. D'entendre aussi ce qu'a écrit Saint-Saëns, qui n'a pas eu le prix de Rome, mais qu'il a passé deux fois. Et à chaque fois, il a donc composé ce chœur d'essai. Donc moi, je me suis procuré ces chœurs d'essai et j'en ai fait un spectacle dans lequel on découvre comme ça des choses tout à fait inédites. Bien parce sûr. Que, par exemple, il y a une œuvre de Ravel dont j'ai fait faire la transcription spécialement à partir du manuscrit par un ami à moi qui est pianiste, Léo de Bonneau. Je me suis procuré auprès du Palazzo Bruzzane, qui est une grande structure qui a écrit par exemple les ouvrages sur le prix de Rome, avec des musicologues éminents et qui prônent toute la musique romantique et qui rééditent tous ces vieux passages, et m'ont fait cadeau de certaines de ces transcriptions.
Vous allez faire chanter et jouer combien de pièces de ce type dans votre spectacle?
Dans ce spectacle, il y en a une quinzaine.
Une quinzaine.
J'ai amené le programme pour avoir... Pour vous dire un petit côté, pour clore, puisque vous m'invitez à parler de ce spectacle, vous voyez, là, il y a une année où, par exemple, Max Dolon et André Caplet ont été amenés à concourir la même année. Ils ont donc fait chacun leur cœur d'essai, qu'ils ont soumis au jury. Tous les deux ont été pris. Et je me suis procuré, sur le même poème, donc, la même année, Caplet. Et
parce qu'en plus, c'était le même sujet, c'est ce que vous disiez.
C'est exactement le même poème.
C'est étonnant.
Mais, de cette façon, on voit la sensibilité du compositeur, on voit comment le compositeur a prosodié et comment il est tenu par le texte français pendant la prosodie. On voit des similitudes. Ils n'ont pas copié l'un sur l'autre, mais le texte français, la parole...
Ils le perçoivent un peu de la même façon.
Et puis, il y a des choses qu'ils perçoivent d'une façon différente. Par exemple, des notions. Il y a un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, par exemple, Caplet parle de Dieu, et quand il parle de Dieu, c'est un fortissimo. Tandis que Max Dolon, c'est un piano.
Il est plutôt en prière.
C'est plutôt... Vous voyez ? Alors, tout ça, ça a un charme immense. Parce que sur le même poème... On a deux versions différentes, mais on pourrait le faire sur d'autres, là, et je pense que plus tard, on va développer un peu ça, parce que j'ai d'autres... Il y a d'autres pièces comme ça qu'on peut avoir en comparaison. Là, c'est un...
Ça va être un vrai succès, mais je vous remercie beaucoup de nous en avoir parlé comme ça, parce que c'est vraiment merveilleux, c'est sûr. Et en plus, vous le disiez, avec des sensibilités très différentes, mais un même talent, en fait. Il n'y en a pas un qui est plus talentueux qu'un autre, c'est un talent différent.
Et ils se respectaient tous. Vous voyez les photos, vous voyez les photos des prix de Rome où ils sont tous devant cette magnifique villa, et ils sont tous là, ils posent sur une photo et on voit tous les grands compositeurs. Moi, ça me fascine. On voit les Ravel avec Max Dolon, etc. Ils étaient concurrents.
Et puis heureux d'être là.
Mais voilà.
Allez, on a gagné. Et les gagnants, ça va être les auditeurs. Je suis sûre que vous allez faire un vrai succès. Et pour terminer cette émission, je me tourne vers Marie Amiel, qui va chanter Offenbach.
Oui.
Waouh. Vous avez un morceau préféré, parce qu'Offenbach, je pense que beaucoup de Français sont fous d'Offenbach. Je crois que, pour ce qui me concerne, Offenbach, c'est un de ceux que je préfère, parce que il y en a qui élèvent l'âme, il y en a qui nous mettent en prière, il y en a qui nous font faire de la philosophie, absolument. Et puis celui-là, c'est la joie.
Oui,
c'est le bonheur, le bonheur de vivre. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs que il était quelquefois un peu facétieux et qu'il écrivait pour ses cantatrices des morceaux de plus en plus difficiles, de plus en plus hauts, de plus en plus rapides? Je ne sais pas si c'est la réalité. Il y en avait une qui se plaignait beaucoup en lui disant mais enfin ça c'est pas possible, je vais pas pouvoir le jouer. Mais si, vous allez voir.
si je peux dire, là je vais chanter des extraits de plusieurs opéras. Il y a la Belle Hélène, il y a la Duchesse de Gerolstein, la Péricole,
Dis-moi Vénus,
voilà, que je vais chanter, que j'adore.
Vous en diriez
Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu?
Oh, merci, Marie, merci. C'est un cadeau merveilleux. Merci beaucoup, Marie.
Avec plaisir.
Nos auditeurs vont être absolument charmés, tout comme Roland Richard, d'ailleurs, qui est en train d'enregistrer cette émission et qui ne revient pas et qui la réalisera pour vous dans les studios de Radio Grand Ciel. Ah, merci, Marie.
Avec
Alors,
plaisir.
On va retrouver tous les airs que nous
Exactement.
Aimons.
Oui. C'est un pêle-mêle de beaucoup d'airs. Donc là, moi, je fais des airs des mezzo-soprane, mais il y a aussi Jean-Christophe qui fait les barytons.
Voilà. Un spectacle complet. Et
Exactement.
Donc, cette Offenbach Forever, ça c'est sûr, c'est Forever, dimanche 14 mai, en l'abbaye du Breuil-Benoît, à 16h. Et c'est une comédie musicale qui a été composé par Jean-Marc Biscup, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, sur des musiques les plus célèbres de Jacques Offenbach. Et Dieu sait
Exactement.
S'il y en a.
Et il y a des très beaux costumes, des magnifiques costumes que Jean-Marc a lui-même dessinés et fait fabriquer. Et il y a des robes vraiment sublimes j'ai la chance de porter.
Et nous aurons la chance d'avoir Offenbach en personne.
Oui, il y aura le
en personne,
avec
oui,
sa barbe,
madame.
La barbe d'Offenbach.
Avec sa barbe, oui, madame.
Et donc, la belle Hélène.
Oui, la belle Hélène, la Péricole, la grande duchesse de Gerolstein.
De Gerolstein aussi.
Oh. Voilà, donc beaucoup de...
Un régal. Je pense que vous allez vous rendre nombreux, vraiment très nombreux. Mais l'abbatiale est très grande, n'est-ce pas, Laurence?
Oui.
Vous attendez...
On peut accueillir 250 personnes, sans problème.
Oh, mais ça va peut-être être un peu petit, alors, pour tout le public qui va se presser pour voir cette chose merveilleuse. Je suis absolument ravie de vous avoir reçu. Je suis heureuse que vous soyez venue jusqu'à moi. Et puis, vous remercierez aussi Monsieur Biscup d'avoir été en live depuis le Marrakech, peut-être.
Oui, le Maroc... Oui.
Marie Amiel, on va vous retrouver avec grand plaisir dans le cœur de cette abbatiale et puis aussi dans Divine Calas vendredi 12. Je vous redonne les trois concerts vendredi 12 mai en l'église Saint-Pierre de Dreux. Vous m'avez dit l'heure, Laurence.
20h30.
Samedi 13 mai dans le cœur de l'abbatiale de Breuil-Benoît à 18h pour l'ensemble vocal Les Sources. Et dimanche 14 mai, également en l'abbaye de Breuil-Benoît, pour Offenbach Forever. Merci infiniment à tous les trois. Jean-Christophe, à bientôt.
À bientôt,
et merci beaucoup. Laurence, merci.
Merci Marie-France.
Merci pour ton abbatiale qui permet tout ça.
Oui, on va la faire briller pour les événements.
À bientôt, chers auditeurs. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.